Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va commencer. Évidemment, comme vous, j'ai eu des problèmes pour arriver. Puis, excusez, on va un petit peu concentrer les choses aujourd'hui. Et on va consacrer donc une première partie d'une demi-heure environ sur le Shabbat. Je voudrais, à l'intérieur du Shabbat, dans une petite analyse, dans une petite réflexion, réfléchir avec vous sur le problème suivant. Vous savez que les loisirs occupent une place grandissante dans nos sociétés. Il y a pratiquement une industrie du loisir. Il y a de plus en plus de gens qui considèrent que le plus important de la vie, c'est les loisirs. Ce n'est pas nouveau. Il y a effectivement 20 000 ans, j'ai lu dans une étude que l'homme qui vivait dans ce que l'on appelle le paléolithique inférieur et supérieur ensuite, consacrait 3 heures par jour à la chasse du gibier. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il faisait ? Rien. Rien. Par exemple, j'ai noté qu'il y a une peuplade dans le désert sud-africain qui s'appelle les Boshimans. Alors eux, ils chassent et ils cueillent 2 jours par semaine. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Il y a des aborigènes australiens, une autre peuplade, qui eux travaillent actuellement, 1990, entre 2 et 5 heures par jour. Et dans certaines tribus, on travaille une semaine et on se repose 15 jours. Alors apparemment, nous, occidentaux, du moins prétendus comme tels, quand on entend de telles façons de vivre, on envie ces sauvages qui se prélassent sur des amas tout au long de la journée et qui travaillent entre 2 et 5 heures par jour. Je suppose que pour le même salaire, vous êtes prêt à travailler 2 heures par jour et ou encore une semaine sur 3. En fait, je crois que ces peuplades-là ont une certaine appréciation de ce qu'est la vie. Ils considèrent que dès lors que l'homme a de quoi vivre, inutile de travailler. J'étais il y a quelques mois aux Antilles, visiter, rassurez-vous, une communauté juive, pas me promener, hein, parce que je suis grand rabbin des tomes d'hommes aussi, hein, c'est d'ailleurs ma fonction principale, que je m'occupe de la France, enfin. Et quand je suis allé donc en Guadeloupe et en Martinique, Les gens m'ont raconté que énormément, ils ont un mal fou à trouver des employés. Pourquoi ? Parce que dès que les gars ont de quoi vivre un mois, ils s'arrêtent de travailler. Alors, vous avez donc un employé qui vient un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Au cinquième jour, on ne le voit plus. Où il est ? Il pêche. Vous voyez ? Et c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que là-bas, on jette une ligne, on attrape un poisson, on tend la main, on cueille un fruit. Donc, dès lors qu'on a de quoi vivre, on ne travaille plus. Et on dirait que c'est un petit peu le rêve de l'Occident de retrouver ce mode de vie. Je crois très sincèrement que vous tous, nous tous, si nous avions un travail qui nous permettait de vivre avec un minimum d'effort, nous accepterions ce travail. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de travailler moins et de gagner plus. Donc, on pense que si c'est ça la mentalité d'un être humain, c'est que l'être humain n'aime pas le travail, n'aime pas l'effort, et qu'il aime autre chose. Alors moi, je me suis demandé pourquoi les hommes n'aimaient pas travailler. Quand un gars aime travailler, on dit c'est un fou du boulot. Donc, c'est quelque chose qui tourne pas rond. En fait, je crois la chose suivante. C'est que l'homme, ce n'est pas qu'il n'aime pas travailler. C'est que l'homme aimerait dans sa vie que son projet d'existence reflète ses propres aspirations. Ça veut dire que j'ai envie de certaines choses dans la vie et je ne peux pas les réaliser. Et lorsque je suis en vacances, lorsque je ne travaille pas, j'ai le sentiment de pouvoir réaliser ce dont j'ai réellement envie. Donc, à la limite, si je poursuis cette idée, qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Comment vous pouvez le connaître ? Vous pourriez le connaître à la façon qu'il a de passer ses loisirs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme ? C'est celui qui se réalise lorsqu'il ne travaille pas. Apparemment, ce serait cette définition. Dans le Talmud, on trouve une définition qui se rapproche de celle-ci, qui est la suivante. On dit que, de façon un petit peu amusante d'ailleurs, que l'on peut connaître un homme à partir de trois critères. La Gemara dit « Bekisso, Bekosso, Bekasso ». C'est facile à se rappeler, « Kisso, Kasso, Kassa ». Non, je suis tombé. « Kisso, Bekosso, Kassa ». Ça veut dire quoi ?« Kisso, c'est sa poche. « Kasso, c'est sa colère. « Kosso, c'est son verre. Donc, vous voulez savoir à qui vous avez affaire ? Trois critères. Demandez-lui de l'argent. Dès qu'il met la main dans la poche, vous savez à qui vous avez affaire. Deuxièmement, casso, énervez-le, fâchez-le, vous allez voir comment il réagit. Troisième critère, cosso, donnez-lui à boire, de l'alcool, et vous verrez à qui vous avez affaire. D'ailleurs, avant de vous marier, mesdemoiselles, c'est un bon critère de sélection. Vous avez là trois armes impitoyables que je vous invite à utiliser. Mais la Gemara ajoute une quatrième, et c'est celle-là qui m'intéresse maintenant. C'est que la Gemara dit « V'af v'sahaku » aussi dans son rire. Faites rire quelqu'un et vous verrez qui il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour connaître la dimension ultime d'un être humain, il faut savoir qu'est-ce qui le fait rire. Est-ce que c'est la grossièreté? Est-ce que c'est un jeu de mots? Est-ce que c'est une chose agréable, douce? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, est une aspiration supérieure? Quand vous voyez qu'est-ce qui fait rire un homme, vous savez qui il est. Et en fin de compte, cette notion du rire, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de libération de l'énergie intérieure qui est contenue dans chacun d'entre nous et qui a besoin de s'exprimer. Et dans la mesure où quelqu'un peut réaliser cela dans le cadre d'une activité, vous savez qui il est. Donc, ça vient confirmer l'idée que j'expliquais à l'instant, à savoir que les loisirs, que le loisir, c'est l'expression d'une certaine forme de moi ultime. À l'intérieur de moi, j'ai des aspirations, j'ai des envies, j'ai des souhaits, et puis je les réalise quand je n'ai plus de contraintes, quand je suis libre. Parce que le reste du temps, les contraintes de la société, les contraintes de mon emploi du temps, m'imposent des réserves que je ne peux pas, bien évidemment, rejeter. Résultat, je suis tenu à des réserves, donc je ne peux pas dire qui je suis. Si vous observez le problème sous cet angle, il faut continuer l'idée encore un peu plus loin. Et réaliser que finalement, on pourrait dire qu'à la limite, le véritable sens d'une civilisation se retrouve dans sa conception du loisir. Ça veut dire qu'à la façon dont une société organise son temps libre, vous savez à quel type de société vous avez affaire. Donc, à la limite, comment une société se repose, et je te dirai qui elle est. Alors dans cette perspective, on va observer ce qui se passe. Et on va voir deux choses. On va voir le week-end des nations. Le week-end des nations, défoulement, alcool, accident, violence, etc. Vous voyez ce qui se passe sur les stades de football. Vous voyez qu'est-ce que l'on a été capable de faire des Jeux Olympiques, du sport. Vous voyez ce que, d'une façon générale, on observe sur les plages, pas trop près s'il vous plaît, ou dans les lieux de tourisme. Voyez ce que certains clubs qui ont fait fortune ont réussi à proposer aux gens en leur disant « faites ce que vous voulez », et puis effectivement ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que le défoulement risque d'être la réponse à ce qui est contenu le reste du temps. Maintenant, si vous voulez bien, on se transporte dans la société juive. Non pas comme les juifs vivent, et c'est là où vous allez comprendre ce que dit une Gemara qui pourrait paraître antisémite s'il n'était pas un texte du Talmud. Ce texte du Talmud dit comme cela, c'est la Gemara de Betsa, page 25, et elle dit que les nations du monde doivent remercier Dieu d'avoir donné la Torah aux Juifs. Et la Gemara dit heureusement que les Juifs ont la Torah, parce que sans ça on n'aurait rien pu faire. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas reçu la Torah, ils auraient été une nation terrifiante. C'est la Gemara qui dit cela. On dit qu'ils sont azim. Azim, ça veut dire à la fois courageux, entreprenant, peut-être aussi d'une certaine façon arrogant. Et que donc, lorsque certains ont dit peuple sur de lui, dominateur, etc., moi j'ai pas fait de commentaires, je dis tiens, comment il sait? Excuse-moi, il a pas lu la Gemara. Donc, nous on savait, on n'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas critiqué les Juifs, bien sûr. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que quoi? C'est vrai que dès que vous libérez le Juif, dans n'importe quel domaine, il va devenir très fort. La banque, par exemple. D'où la réputation qu'ont eu les Juifs pendant l'histoire, alors que historiquement, ils ont été conduits au métier de l'argent, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que dans la douce France du Moyen-Âge, il était interdit à un Juif de posséder des terres, d'exercer des professions, de se déplacer librement. Il n'avait qu'un moyen de survie, c'était l'usure. Il prêtait de l'argent avec un taux. Et grâce à cela, il pouvait vivre. Alors on a assimilé le juif et l'argent. Mais hélas, pour l'antisémitisme, mais résultat, c'est qu'on voit que dès qu'il s'est engagé dans cette voie, le juif a réussi. Prenez n'importe quel domaine des affaires. Prenez n'importe quel domaine matériel. Prenez le domaine de la guerre. Ce qui a valu à Israël de la sympathie au moment de sa création, lui vaut aujourd'hui des reproches. On reprochait aux Juifs, il y a 50 ans, d'être des couards, des gens qui ont peur. Maintenant, on leur reproche d'être trop courageux. On disait d'eux, ils n'ont jamais manié une arme. Maintenant, ils savent s'en servir admirablement. On leur reprochait de ne pas savoir travailler la terre, maintenant ils ont les meilleures productions agronomiques du monde. Mettez le juif dans l'agronomie, dans la science, dans l'armée, partout, il va faire les grandes choses. Alors le Talmud dira, heureusement qu'ils ont la Torah, parce que la Torah, je vous dis tout de suite, ça vous esquinte un homme. Quand vous avez étudié la Torah, vous n'avez plus envie de faire autre chose. Pourquoi? Parce que quand vous faites du jogging pendant une heure, vous fatiguez, mais du Talmud pendant une heure, vous êtes mort pour la journée. D'ailleurs, on a une tradition, c'est lorsque quelqu'un monte à la Torah, quand il sort, on lui dit Chazak. Chazak, ça veut dire sois fort. Alors pourquoi vous lui dites sois fort? Parce qu'il est fatigué. Rien qu'il a entendu le rabbin lire pendant trois lignes, il sort et il est crevé. Alors imaginez un petit peu s'il fait que ça. Et c'est la Gemara qui dit à Torah Matisha Kocho Saladam. La Torah épuise l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait appel à toutes ses ressources, à toutes ses dimensions. Et la Torah est tellement complète, tellement grande, qu'on ne peut pas y adhérer sans y laisser sa propre dimension d'homme. Cela, donc, c'est ce que disait la Guémara. Heureusement donc que ce texte existe pour ne pas que vous croyiez, mes chers amis, parce qu'il ne faut pas se tromper, nous, que les antisémites se trompent, c'est leur droit. Mais nous, on n'a pas le droit de se tromper sur les juifs. Il est clair que pour la Torah, les juifs sortis de la Torah peuvent être les pires des hommes. On n'a jamais dit que les juifs étaient les meilleurs. On a dit qu'ils avaient une loi unique, divine, sublime, qui était capable de faire d'eux même des gens bien. Et la Gemara dit comme ça, dit, si la Torah est capable même de transformer les juifs, alors qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec les goyim? Puisque même les juifs, elle les transforme. Et la Gemara dit pas ça en rigolant. Elle dit, ça veut dire que si un juif qui sort de la Torah, il va être un bandit incroyable. Incroyable. Et la Gemara dit dans un autre endroit, à propos de Issachar et Zevulun, les fameux deux frères, dont un avait pris la vocation d'étudier la Torah, et l'autre celle de faire de l'argent, comme on dit aujourd'hui. de courir sur les routes, de traverser les océans. Et ils avaient décidé de partager leurs mérites. L'un permettant au second de vivre dans ce monde-ci, et l'autre permettant au second d'accéder au monde futur. Et ces deux hommes, la Torah les définit ainsi, Tzmach, Zevulun Betsetecha, Veissachar Be'olecha. Réjouis-toi, Zevulun, quand tu sors. Et toi, Issachar, dans ta tente. Celui qui sort vers des affaires, celui qui reste dans sa tente étudiée. Et un de nos maîtres a dit, réjouis-toi, Zevulun, quand tu es dans ta tente, quand tu es en chemin, parce que Issachar est dans sa tente. Ça veut dire que si Issachar, le juif qui étudie la Torah, sortait, tu ne pourrais plus faire d'affaires. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il serait tellement fort dans les affaires. D'ailleurs, dès que les rabbins font des affaires, c'est pas la peine d'essayer après eux. Hein. Je dis tout de suite, non mais c'est vrai. On constate que chaque fois qu'il y a une tentative de sortie de la Torah, dans une famille par exemple, où il y a eu d'illustres rabbanim, et où l'un des enfants se lance dans le milieu des affaires, il est imprenable. Pourquoi? C'est quoi une âme supplémentaire? Où elle est cette autre âme, cette âme supplémentaire? Où elle est? Elle est en moi, disent nos maîtres. Et en fait, lorsqu'arrive le jour du Shabbat, nos maîtres disent comme cela, qu'est-ce qu'a créé Dieu pendant les 7 jours? Pendant les 6 jours, c'est clair, il y a la liste. Il a créé les astres, le cosmos, les animaux, l'être humain. Et le Shabbat, qu'est-ce qu'il a créé? Nos maîtres disent qu'il a créé la menoucha, la notion de repos. Et c'est quoi la notion de repos? C'est pas la notion de cessation de travail. C'est là où nous y sommes. C'est pas le fait de s'arrêter de travailler. C'est pas le fait de ne plus travailler. C'est le fait de chercher à être autre chose. Or, comment dans la vie je peux m'épanouir? On m'écrase dans la vie. Je peux être un employé dans une usine, moi. Qu'est-ce que je suis? Rien du tout. Avec toutes les pressions sociales autour de moi, avec toutes les nécessités de gagner ma vie, etc., je peux être un pauvre bougre. Comme il y en a des millions d'autres exemplaires dans le monde. Je parlerai tout à l'heure dans mon cours, merci Hachem. Et voilà que d'un seul coup, le Shabbat arrive, je suis quelqu'un. Pourquoi je suis quelqu'un? Parce que j'ai la possibilité d'être moi-même. Et je vais découvrir que je suis quelqu'un. Et le Shabbat va m'aider à découvrir que, effectivement, je suis quelqu'un. Et moi, je vous assure, mes chers amis, je peux vous assurer que ce que je dis dans mes cours, je le pense et je le vis. Et j'ai vu des gens d'une extraordinaire modestie sociale arriver à la synagogue le vendredi soir ou le samedi matin. Croyez-moi, c'est des princes. Vous voyez leur dignité. Vous voyez comment ils sont capables de s'habiller, comment ils sont capables de marcher. Or, par la démarche, déjà, on voit si l'homme est courbé, abattu, démoralisé, méprisé. On voit s'il a retrouvé sa dignité. La démarche du juif le Shabbat, c'est autre chose. Et le prophète Isaïe disait, justement, lorsque tu marcheras le Shabbat, ça veut dire quoi? Ils disent ainsi, symboliquement, la façon de marcher le Shabbat est différente. Alors nous, on l'exprime dans une halakha, c'est qu'on dit le Shabbat, on ne court pas, sauf pour arriver à la synagogue. On ne court pas le Shabbat. Quelqu'un m'a demandé s'il pouvait jouer au tennis ou faire du jogging. Je dis pas que c'est... On peut trouver toujours un rabbin sympa qui vous permet, c'est pas le problème, si vous voulez j'en trouve un. J'ai l'annuaire, je me balade avec l'annuaire des rabbins sympas. Mais c'est pas le problème. Le problème c'est que l'idée même du perfectionnement du corps et le sens de l'effort, la tension vers quelque chose, c'est pas cela le monde du Shabbat. Développer son corps, c'est accéder à un autre univers que celui du Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un week-end de golf. Vous comprenez? Le Shabbat, c'est une autre accession. Une accession où pas plus on respectera le Shabbat, je vous l'ai déjà dit, souvent sous forme de plaisanterie, si on dort toute la journée. Il y a des gens pour lesquels le Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Résultat, qu'est-ce qu'ils font le Shabbat? Ils compensent la semaine. Donc en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour eux? C'est la semaine. Parce que le Shabbat, on dort pourquoi? Travailler en semaine. En fait, théoriquement, la semaine, il faudrait se reposer et le Shabbat se réaliser. Bien sûr, on ne peut pas tous. Bien sûr que le Shabbat n'est pas interdit de dormir. Mais comprenez que certains ne veulent pas tellement dormir. Je ne dis pas que c'est facile. On n'y arrive pas, moi non plus. Je ne vais pas faire le malin. Mais je me souviens du disciple de Rabbi Baal Shem Tov, du Rabbi Nata, il s'appelait, qui dormait depuis qu'il était bar mitzvah, à l'âge de 13 ans, il dormait quelques heures la nuit du vendredi soir. Alors, un jour, on lui a dit, mais enfin, Shabbat, c'est quand même un jour de repos. Il a dit non. Il est marqué dans la Torah, Veshameru bene Israël et ta Shabbat. Et les enfants d'Israël garderont le Shabbat. Tu as déjà vu un gardien dormir? Moi, je garde le Shabbat. Je suis normalement en faction, comme une sentinelle devant la caserne. Je ne peux pas dormir. Alors, je dors le minimum vital pour tenir le coup. Et puis, il a dit d'ailleurs, il y a une autre raison. C'est que le Shabbat, justement, les Juifs sont des rois, des princes. Tout le monde est riche, entre guillemets, le Shabbat. C'est-à-dire, tout le monde doit avoir de quoi manger. Tout le monde doit avoir de quoi s'habiller. Et lorsque, il citait un exemple, Napoléon. Il disait, Napoléon, il dormait très peu, on dit dans ses mémoires. Et il a écrit pourquoi il dormait très peu. Il disait, c'est parce que comme je dors, je ne sais plus que je suis l'empereur de tous les Français. Ça l'embêtait. Alors un juif, c'est la même chose. Quand il dort, il ne sait plus qu'il est roi. Donc il n'a pas envie de dormir. Si on vous dit, je suis persuadé que si vous recevez en rentrant chez vous tout à l'heure un télégramme de l'Élysée, et François vous dira, mon cher ami, l'ami, disons, je vous demande de bien vouloir me remplacer pendant 24 heures à l'Élysée. Moi, je sais déjà comment vous allez passer votre journée. Vous n'allez pas dormir une minute. Vous allez demander où est mon hélicoptère, mon Mystère 50, les motards. Vous allez faire le tour de Paris dès qu'ils ont fini les lycéens, parce que c'est pas évident. Hein. D'accord, vous allez faire le tour de Paris, vous allez faire partout, pour que tout le monde sache que vous êtes le président de la République. Or, le Shabbat, c'est la même chose. Pendant 25 heures, vous êtes un roi. Alors, on ne peut pas dormir. Comprenez, je veux dire. Ça veut dire que quand la Torah veut éveiller en l'homme quelque chose, ça veut dire, elle nous dit comme ça, en toi sommeille une dimension d'humain, il ne faut pas que tu laisses somnoler. Ça veut dire qu'il faut que le Shabbat soit au contraire la résurgence de ce que tu as envie d'être, d'où mon cours que je viens de terminer maintenant sur le problème des loisirs. Les loisirs étant la projection de mon rêve, le Shabbat devrait être le rêve du peuple juif. Et on dit dans un très beau midrash que Dieu a rêvé quand il a fait le monde, et il a rêvé du Shabbat. Je trouve ce midrash génial. Il est très évocateur. Ça veut dire que le rêve de l'humanité, c'est le Shabbat. On a besoin de comprendre un peu plus pourquoi, c'est pour ça qu'on va en parler pendant un an. Mais en fait, le rêve qui est le Shabbat, ça veut dire ce monde-là, dont il faut définir avec précision la consistance et le sens, est un appel à la signification de chaque être. Et vous allez voir que vous allez vous découvrir de nouvelles énergies. Et c'est pourquoi le Shabbat, effectivement, quand il termine, c'est pas parce qu'on a mieux dormi, mieux mangé que d'habitude. Un Shabbat, un vrai Shabbat, mes chers amis, quel que soit le nombre d'heures de sommeil que vous avez eu, vous êtes un être régénéré. Parce que vous avez découvert, si vous l'avez véritablement vécu, une énergie spirituelle considérable. Et c'est elle qui vous permet de tenir le coup. Nous reviendrons là-dessus, bien évidemment. Avant de conclure cette partie, un rappel de quelques lois en poursuite de ce que nous avons dit donc il y a 15 jours maintenant, parce que la semaine dernière on n'a pas eu le temps d'en parler. Alors, on avait vu que dans notre préparation du Shabbat, il est extrêmement important de se fatiguer en l'honneur du Shabbat. Donc de faire un effort, et on avait dit même quelqu'un de très important, qui a des serviteurs, qui est riche, etc., doit lui-même faire quelque chose, faire des courses. Moi, il m'est arrivé souvent de rencontrer des gens dans un supermarché le vendredi, ils étaient étonnés de me voir, ils m'ont dit « Comment, vous ?» Je dis « Ben ouais, moi !» Je suis plus grand que le Shabbat, puis quand ? Comprenez ? Quand vous êtes le serviteur de quelqu'un de grand, ben vous êtes pas petit. Eh ben le Shabbat c'est très grand, donc nous on le sert. Donc, il ne faut pas avoir honte, messieurs, d'éplucher des légumes. Et il est dit nulle part, attention, écoutez-moi bien mesdames, puisque les messieurs ne sont pas là, on peut parler entre nous. Donc, c'est la dimension de la Torah. Elle hisse l'homme. Elle lui donne des aspirations. Elle développe son esprit. Elle lui permet quoi ? D'avoir envie de quelque chose. Et c'est là le problème du loisir posé dans notre civilisation. Et voilà comment nous retrouvons notre problème du Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le problème du loisir proposé par la Torah ? C'est le Shabbat. Alors je voudrais juste que vous réalisiez quelque chose de quand même extraordinaire. C'est qu'aux hommes, on est obligé de proposer un travail obligatoire. La Torah propose aux hommes un repos obligatoire. Vous voyez la différence ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, contrairement à ce que l'on croit, l'homme a envie de travailler. L'homme a envie de se réaliser dans l'effort. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, l'angoisse de l'homme, c'est pas de pas manger, c'est d'être obligé de manger comme un chien. Au moment où Dieu a dit, je te chasse du jardin d'Éden, et maintenant tu mangeras, tu vas aller manger l'herbe des champs. Alors Adam Arishon a dit, il s'est mis à pleurer devant Dieu. Il a dit, comment, comme un âne, je vais brouter? Dieu lui a dit, non, rassure-toi. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Alors le Midrash dit que l'homme a été assuré. Il dit, ah, si je vais me fatiguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par l'effort, l'homme a le sentiment qu'il mérite. Et rien ne vous paraît plus mérité que ce que vous avez obtenu par l'effort. Voyez tout dans la vie. Même une belle vue. Quand vous avez monté à pied une montagne, vous n'avez pas le même point de vue que si vous êtes arrivé en hélicoptère. C'est la même vision, mais ce n'est pas le même effort. Et lorsque l'argent vous tombe trop facilement, ce n'est pas bon non plus. Nos maîtres disent, écoutez bien ça, que celui qui gagne sa vie au jeu, me sachek me kouvia. Avant, on jouait aux osselets, c'était une forme de jeu de hasard. On dit que celui qui gagne sa vie avec le jeu est impropre au témoignage. On ne peut pas recueillir son témoignage dans un tribunal juif. On dit pourquoi? On dit en fait pour deux raisons. La première raison, c'est parce que qu'est-ce que c'est que gagner de l'argent? Qu'est-ce que c'est que une transaction? C'est lorsqu'il y a eu deux opérations successives, une vente et une acquisition. Yetzia mereshut veachmasa lereshut. Ça veut dire que moi je vends et vous achetez. Mais il faut que moi je veuille vendre et que vous vouliez acheter. Autrement, il n'y a pas de transaction. Ça paraît élémentaire. En fait, ce n'est pas du tout élémentaire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne veut pas vendre, ça veut dire en fait, d'une certaine façon, on lui arrache la vente. Nos maîtres disent, c'est comme du vol. Si j'achète un objet, imaginez la scène, je rentre dans un magasin, un objet vaut 100 francs. Je jette le billet, je prends l'objet. Peut-être que lui ne voulait pas le vendre. Peut-être pas celui-là. J'ai le sentiment, d'une certaine façon, d'avoir volé. Et nos maîtres disent pourquoi? Parce que le propriétaire est attaché aux objets qu'il a. Même si sa vocation c'est de vendre, d'une certaine façon, il aime ce qu'il possède. Mais plus loin que cela, mes chers amis, ça va encore plus loin l'idée. C'est qu'en fait, au moment où on joue, qu'est-ce qui se passe? Sur une table, chacun mise. Au moment où je vais gagner, c'est moi qui vais rafler tous les pions de la table. Vous avez remarqué le regard de ceux qui voient partir l'argent? Ils ne sont pas d'accord. Pourtant, c'est la règle du jeu. Personne n'a volé l'autre. Mais ils ne sont pas d'accord. En fait, ils n'ont pas donné l'argent. Donc celui qui gagne au jeu, d'une certaine façon, il acquiert quelque chose sans l'assentiment de celui qui lui a donné. Vous voyez l'idée? Donc d'une certaine façon, c'est un voleur. Mais nos rabbins vont encore plus loin. Et ils disent que lorsque quelqu'un gagne sa vie au jeu, admettons qu'il ait, disons, ce qu'on appellera de la chance, il va gagner son argent trop facilement. En ayant gagné trop facilement, il n'a pas la valeur de l'argent. Il ne connaît pas le sens de l'effort. Donc pour lui, comme gagner c'est facile, perdre c'est facile, il pense que tout le monde est du même avis que lui. Et si à ses yeux l'argent n'a pas de valeur, alors il peut prendre celui des autres. Et effectivement, on dit que cet homme est suspect. Vous voyez l'appréciation des Kharmim. Qu'est-ce qu'il ressort de cela? C'est que l'homme a besoin d'effort. Que l'homme a besoin de sentir qu'il a bâti quelque chose. Et lorsque vous présentez des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent même beaucoup d'argent, vous n'avez jamais le même sentiment lorsque vous voyez leurs héritiers. Si eux ne développent pas la fortune, si eux ne construisent pas leur industrie, si eux ne développent pas leur commerce, il n'y a pas la même perception des choses. En fait, on voit que selon la Torah, ce dont l'homme a besoin, c'est qu'on lui ouvre non pas des perspectives professionnelles, mais qu'on lui ouvre des perspectives de loisirs. Et voilà que, mes chers amis, la Torah vient faire quelque chose d'absolument génial, extraordinaire, réalisez-le. Je pense que rien que cette idée-là, elle valait la peine d'être écoutée une fois. C'est qu'en fait, la Torah ne dit pas, soyez bûcheron, tailleur, horloger. Elle ne parle pas de la vie professionnelle. Pas plus qu'elle ne parle de la vie politique. La Torah ne dit pas, soyez socialiste. D'accord? Ou autre chose. Elle ne dit pas. Pourquoi? La Torah ne sait pas que la vie professionnelle et la vie politique, c'est capital dans un État, dans une vie. On choisit un système politique. On choisit un métier. Pourquoi est-ce que la Torah ne nous aide pas, elle ne nous dit pas choisissez un métier? C'est vrai qu'il y a un texte du Talmud, on les étudiera, Bezrat Hashem, j'ai prévu dans le cadre de l'année, qui nous dit comment choisir un métier. C'est intéressant, voyez-moi. Ça va vous apporter des choses extraordinaires. Mais en fait, dans sa conception de base, elle dit choisissez ce que vous voulez. Une chose je vous demande, c'est de faire la volonté de Dieu. Pour cela, une chose est indispensable et la base de tout, c'est l'observance du Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On ne travaille pas. Donc c'est au moment où on ne travaille pas qu'on construit ce que l'on est. C'est au moment où je ne suis plus dans la tension sociale, dans cette lutte de la vie, où je n'ai plus de problème de survie, où je n'ai plus la nécessité de prouver qui je suis, que je peux réaliser ce que je suis. Et ça, c'est la dimension du Shabbat. Le Shabbat, ce serait un jour dans lequel, d'un coup, il n'y a d'abord plus besoin de gagner d'argent, on n'a même plus le droit d'en parler, on n'a même plus le droit d'y penser, on se déconnecte complètement de toute la nécessité de survie et de toutes les tensions économiques. Il n'y a plus de hiérarchie sociale. Je peux être PDG de la régie Renault, par exemple Lévy, monsieur Lévy, c'est un bon juif en plus, hein. C'est vrai, je l'ai vu à plein d'endroits. Et on peut être un ouvrier à la sortie de la chaîne de Billancourt, les deux, ils peuvent être assis ici. À côté, Shabbat. Shabbat, il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'ouvrier. Shabbat, il n'y a plus de nécessité de gagner sa vie. Shabbat, c'est un monde dans lequel l'homme va découvrir autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il va découvrir, l'homme? Et nos maîtres disent qu'un Shabbat réussi, c'est un Shabbat dans lequel on se découvre une nouvelle âme. Ce que la Torah appelle Neshama Yetera. Une âme supplémentaire. Il est dit nulle part que c'est la femme qui doit faire le ménage. Il n'y a pas... Je vous demande de ne pas me laisser sortir seul tout à l'heure. Vaut mieux éviter quelques représailles, mais c'est très clair que pour la Torah, c'est pas la femme à la cuisine ou au ménage. D'ailleurs, moi je connais des hommes, j'ai un ami par exemple, son plaisir c'est de cuisiner. Celui de sa femme c'est de faire la vaisselle. Chacun son plaisir, vous voyez. Alors, donc, on peut trouver son plaisir dans la préparation du Shabbat, mais il n'y a pas de tâche affectée. Ce qui compte, c'est effectivement de faire un effort dans ce que l'on est, en l'honneur du Shabbat. Deuxièmement, nos maîtres recommandent, un petit peu en poursuite de ce que j'ai expliqué tout à l'heure au plan un petit peu philosophique, c'est que le Shabbat, il faut bien évidemment préparer son corps à l'accueil. C'est-à-dire que c'est ça, où la dimension spirituelle n'est pas exclusive dans la Torah, elle est toujours un compromis avec la dimension physique. Et c'est pourquoi on nous demande, par exemple, comme une mitzvah, de se laver entièrement en l'honneur du Shabbat. Alors aujourd'hui, ça paraît évident. Les appartements ont tous de l'eau chaude, courante, etc. Moi, je vous demande de réaliser ce qui se passait, par exemple, il y a quelques siècles. Vous savez qu'en visitant le château de Versailles, j'ai demandé où étaient les salles de bain. On m'a dit, il n'y en a pas. Louis XIV, c'est connu, ne se lavait pas. Il se parfumait. Je vois un petit peu la couche qu'il devait avoir, hein, à la fin. À la fin de sa vie, on ne le lavait plus. Vous comprenez la force de... Ça veut dire, en fait, quoi? C'est-à-dire que, déjà, il y a 3000 ans, les Juifs se lavaient. C'est important de savoir. Et certains empereurs de l'Antiquité avaient de ce côté-là une certaine avance sur le roi Soleil, d'accord, qui déjà avait un certain nombre d'adductions d'eau dans leur palais. En tout cas pour les Juifs, c'est évident. Il faut se laver donc entièrement le corps, prendre bien un bain ou une douche, la halakha prescrit une toilette complète, elle demande même de se laver les cheveux en honneur du Shabbat. Elle recommande pour les messieurs un mikvé, un bain rituel, à l'entrée du Shabbat, avant le Shabbat. Elle demande que l'on soigne même ses ongles, qu'on y pense. Et à ce sujet d'ailleurs, vous savez que les ongles, parce que je vais vous faire un petit cours prochain, peut-être déjà la semaine prochaine, sur la superstition. Je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de points qu'il fallait expurger de nos consciences. Alors il y a beaucoup trop de superstitions, on va donc faire un petit truc là-dessus. Et donc illustré de plusieurs exemples. Alors sur les ongles, on entend des tas de trucs. Pourquoi? Parce que les ongles, les sorcières, etc., clac, bon. Or, c'est vrai que dans la Torah, on a toute une approche des ongles. Rien que les ongles, il y a un cours à faire. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas les couper de n'importe quelle façon, il ne faut pas les couper n'importe quand, il ne faut pas les couper de les jeter. Et alors on a dit des tas de trucs sur les ongles. Or, le problème est le suivant. Est-ce que les ongles font encore partie de l'être humain ou pas, quand ils sont coupés sans temps? Est-ce que les ongles coupés sont encore une matière organique vivante selon la Torah? Et nos maîtres répondent oui, d'une certaine façon. Et ce qui est le prolongement de l'être humain ne doit pas être négligeable, ni négligé. Et nos maîtres recommandent de brûler les ongles coupés, ou tout au moins de les jeter, de ne pas les laisser traîner, de ne pas les jeter n'importe où. Par exemple, aujourd'hui, dans une chasse d'eau, c'est tout à fait compatible avec la halakha, mais en tout cas, de ne pas les laisser traîner, de peur que l'on marche dessus. Et nos maîtres disent pourquoi marcher dessus? Parce que d'une certaine façon, c'est une partie de l'homme. Comme il est recommandé, lorsqu'on s'est coupé les cheveux, de ne pas les laisser traîner, de les ramasser et de les jeter. On n'a pas besoin de faire la collection de ses cheveux. Vous comprenez, il y en a par nostalgie, comme ça, ils accumulent les cheveux. La Torah ne dit pas cela. Mais elle dit, ce qui est donc, en quelque sorte, une partie encore de l'être humain, ne doit pas être négligé. De la même façon qu'on respecte les morts, pour nous, c'est une façon d'arriver jusqu'au respect de l'humain, du vivant. Ça fait partie de notre approche du respect de l'homme, dans son entité. Et donc, précisément, à propos des ongles, il y a trois recommandations que je voudrais vous donner très brièvement. La première de ces recommandations, qui elle n'est pas une superstition, recommande de ne pas se couper les ongles des mains et des pieds le même jour. On dit pourquoi? On dit parce qu'il y a un certain nombre de gestes qu'il faut savoir, je répète, ce n'est pas de la superstition, c'est de savoir ce qui existe, que l'on réserve à la toilette mortuaire. Vous savez que dans notre tradition, lorsque quelqu'un décède, avant l'enterrement, on procède à une toilette du corps. Du moins dans certains cas. Il y a des cas où on ne peut pas le faire. Mais en général, on y procède. Et dans cette toilette, notamment, on coupe les ongles. Et nos maîtres disent alors, on coupe les ongles des mains et des pieds. Le vivant, lui, ne sera pas comme cela. C'est la raison pour laquelle, pour distinguer par des gestes symboliques, frappants, la vie de la mort, on ne coupe pas les ongles en même temps. Deuxième recommandation, qui justement me rappelle cela, ça va vous amuser peut-être, c'est qu'il y a un ordre dans lequel on a pris l'habitude de couper nos ongles. Alors on les coupe en commençant par l'index, puis ensuite on passe à, comment il s'appelle celui-là? L'auriculaire ou l'annulaire? J'oublie toujours. Celui-là, vous voyez, celui-là, là. L'annulaire. D'accord? Puis en plus on passe au pouce, puis après au majeur et à l'auriculaire. D'accord? Pourquoi? C'est compliqué apparemment. En fait, non. Ça veut dire qu'on ne coupe pas deux doigts l'un derrière l'autre. Pourquoi? Parce qu'on veut se souvenir d'un mot clé. En hébreu, ce mot c'est bedehaga. Ça veut dire avec, en y pensant, avec le souci. Et chaque mot, chaque lettre de ce mot, bet, c'est le deuxième doigt. B. Dalet, c'est le quatrième doigt. D. Aleph, c'est le premier doigt. B. D. A. Gimel, c'est le troisième doigt. Et He, c'est le cinquième doigt. Donc voilà un mot où il y a 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre qu'il faut, et qui veut dire avec le souci. Donc quoi? Le souci de quoi? Le souci de ne pas oublier ce que je suis. Que j'ai dans ce monde une mission réalisée. Et que cette mission réalisée, elle s'exprime par les mains. Les mains, c'est le symbole de l'action. Rappelez-vous notre cours d'il y a, je crois, 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, sur la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. Les doigts qui sont le pôle de l'énergie. Et quelqu'un d'ailleurs qui est ingénieur est venu me voir après ce cours-là pour me dire, vous savez, c'est la raison pour laquelle les antennes sont pointues, parce que c'est elles qui collectent l'énergie. Et c'est vrai, les doigts sont pointus pour être une sorte de collecteur d'énergie. Et donc, ils sont une forme de symbole de tout ce que l'homme a réalisé dans ce monde. Donc, nous, on termine ici notre petite analyse de la préparation physique du Shabbat en vous le rappelant. Et en vous rappelant enfin qu'il est recommandé le Shabbat de poser la table avant l'entrée du Shabbat et de faire en sorte que tout au long du Shabbat, la table reste posée, ça veut dire qu'il y ait toujours sur la table une nappe, qu'il y ait toujours sur la table du pain et que ce pain soit recouvert. Pourquoi ? Pour que notre Shabbat soit toujours le symbole d'une bénédiction. Je crois que dans la chaleur d'un foyer, il y a un certain nombre de points forts. Et l'un d'entre eux, c'est de ressentir l'abondance, la possibilité de manger. Et je crois que c'est vrai, une maison dans laquelle on ne voit rien à manger a un côté un petit peu inquiétant, même si c'est insipide comme notion. Le fait de sentir qu'il y a quelque chose à manger, c'est pour l'homme une sorte de décontraction qui le rassure sur le fait qu'il y a toujours quelque chose. La maison ne manque pas. C'est une forme d'honneur, comme si la table était toujours dressée en l'attente d'un personnage qui va venir y manger. Et nos maîtres recommandent que, au moment où on arrive, le vendredi soir par exemple, de la synagogue, si on y est allé, ou quand on rentre le vendredi soir, tout de suite de dire en rentrant à la maison de la façon la plus gaie, la plus expansive possible, Shabbat Shalom. Ça veut dire pourquoi ? Parce que pour nous, la bouche, le mot, le verbe, a une vertu agissante. La parole n'est pas vaine, elle est pour nous active. Et le fait de dire les choses imprime une certaine atmosphère de sérénité qu'il est indispensable de faire régner. Et il est recommandé, mes chers amis, messieurs, dès qu'on en arrive, de regarder tout de suite les nérotes du Shabbat. Il est dit que la première chose, je vous expliquerai quand vous serez un peu plus vieux, pourquoi, que la première des choses que l'homme doit regarder en rentrant à la maison le vendredi soir, c'est les nérotes du Shabbat. Et à leur vue, de dire Shabbat Shalom. Il est dit que si on a la chance d'avoir ses parents vivants, il faut aller leur rendre visite le Shabbat et leur embrasser les mains le vendredi soir. Dans la mesure où vous avez des enfants, c'est une mitzvah de les bénir le vendredi soir. Et enfin, les deux derniers éléments sur lesquels je voulais terminer ce soir, c'était de veiller à ce que, à la fois notre tenue, comme la table, doit être agréable, que notre tenue le soit. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être, lorsque vous êtes mariés, pour les vieux mariés de la salle, peut-être que vous avez reçu de la belle vaisselle à votre mariage. J'imagine qu'elle est soigneusement conservée dans un placard et que vous la sortez de temps en temps quand vous recevez un personnage important ou quand vous avez des amis qui viennent vous rendre visite une fois tous les 5 ans. Alors permettez-moi de vous suggérer de sortir ce que vous avez de plus beau en l'honneur du Shabbat. Il n'y a pas d'invité plus grand que le Shabbat. Et dès que vous pouvez faire quelque chose en l'honneur du Shabbat, croyez un conseil de vieil ami âgé de quelques 3300 ans, vous ne perdrez jamais à le faire. Bien au contraire. Et cette honneur que l'on fait de la même façon que quand on va voir quelqu'un que l'on aime bien ou que l'on considère, on s'habille bien, on se maquille, etc. C'est important, le Shabbat, d'être bien habillé, de veiller même, nos maîtres disent, heureux est celui qui a un costume ou une robe ou un vêtement réservé au Shabbat, même des chaussures. Mais si on ne peut pas, on n'en a pas, parce que malheureusement on n'a pas les moyens, on peut prendre les mêmes vêtements, à condition de les avoir propres. C'est-à-dire que le Shabbat, ce n'est pas une exigence de richesse, c'est une exigence de kavod, d'honneur, de respect. Et même un clochard dans la rue peut se lever avec dignité et épousseter son vêtement. On peut épousseter un vêtement qui est plein de boue, c'est tout ce que la Torah nous demande, pas la peine d'être riche. Si vous êtes riche, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez cet honneur, cette considération à l'égard du Shabbat. Et enfin, nos Chachamim disent, la plus grande des vertus du Shabbat, c'est de pouvoir conférer à un foyer la paix. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim disent, il ne faut surtout pas que le Shabbat soit un lieu de tension. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce qu'on est énervé, parce que vous savez comment ça se passe le vendredi, c'est la folie. Surtout à Paris, en hiver. Shabbat qui rentre tôt, on n'a jamais fini, tout le monde est tendu, on arrive. Souvent, c'est dans le couple, celui qui travaille, qui rentre la dernière minute, qui cherche sa brosse à dents, il ne trouve pas. Ou le savon qui est déjà sous la douche, comprenez. On a toutes les raisons de s'énerver. Alors, pour peu que quelque chose ne soit pas à sa place, au bon moment, au bon endroit, ben c'est fichu. On nous mettre dit ça, c'est déjà profaner le Shabbat. Trouver la sérénité dans la paix du Shabbat, c'est vital. Et il est dit dans une Mishnah qui est très très belle, qu'on lit d'ailleurs tous les vendredis soirs, on dit que trois choses l'homme doit demander à l'entrée du Shabbat, et Raftem et Sartem Adikou et Taner, est-ce que l'on a tout préparé pour les plats, est-ce qu'on a tout veillé, est-ce que les Néros sont allumés? Et la Gemara dit comme cela, il faut poser ces questions. Mais vous imaginez comment quelqu'un peut les poser? Est-ce qu'on a allumé les lumières? La Gemara dit, béni chouta, il faut le dire doucement. La Gemara dit, c'est une halakha de demander, est-ce que les lumières sont allumées? Non, c'est vrai. Il ne faut pas s'énerver. C'est pas parce que les choses ne sont pas faites qu'il y a une raison de. D'accord? Et si on vous a raconté dans votre passé des cas de divorce à cause d'une daffina brûlée, ce n'est pas plus ni moins qu'un symbole d'assimilation. Certains croient être des observants du Shabbat, parce que pendant la nuit, ils se lèvent, j'en connais, qui se lèvent à 2h du matin pour sentir la daffina. Ils se lèvent le matin, ils vont voir comment elle va. Ils rentrent de la synagogue, ils demandent où est-elle. D'accord? Alors, les femmes croient qu'ils parlent d'elle. Non, de la daffina. D'accord? Alors ça, c'est un échec. Ça veut dire que c'est la civilisation telle que la Torah n'en veut pas. Le Shabbat, c'est pas la grande bouffe. Shabbat, c'est autre chose. C'est une recherche d'une autre dimension, d'une autre forme d'harmonie, et qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler une chose par son nom, voir dans le Shabbat que cela, c'est un échec. La plus grande dimension du Shabbat, c'est le shalom, c'est d'ailleurs la meilleure façon de se saluer. Voilà, pour la première partie.
Nous allons de suite entendre le deuxième cours du Grand Rabbin de France sur le Shabbat. Notez que vous pouvez recevoir chez vous les cassettes de ces enregistrements en souscrivant à la formule d'abonnement.
Comme nous en avions pris le pli depuis quelques semaines, je vais commencer par vous donner quelques indications, quelques jalons de réflexion sur le Shabbat, puis ensuite on passera à Noa Lachot, et puis je m'arrêterai quelques instants pour parler justement des cours, j'ai pas mal réfléchi. Vous avez tous en tête cette image universelle dont on a fait un petit peu le symbole du peuple juif, à mon avis à tort, parce qu'il n'y a pas de symbole qui représente Israël à lui tout seul. C'est ce que l'on appelle le Maguen David, le bouclier de David, ou la pièce de David, puisqu'il s'agirait sans doute d'une pièce de monnaie qui était frappée dans cette forme, et qui en fait est une superposition de deux triangles équilatéraux, et qui émane, ces deux triangles, d'une double conception de la Torah sur le monde et sur le temps. Il est dit dans notre tradition qu'il y a dans le monde trois réalités, Dieu, le monde et l'homme. Ces trois réalités représentent un triangle dont le sommet est Dieu, celui qui est dirigé vers le haut, et dont les deux autres sommets, ceux du bas, représentent respectivement l'homme et le monde. Et que donc, la Torah, c'est une relation entre ces trois éléments. Relation entre l'homme et Dieu, relation entre le monde et Dieu, relation entre l'homme et le monde. Donc, vous tirez des traits, vous obtenez cette figure. Il y a dans le temps trois moments forts qui sont la création, qui sont la révélation, et qui sont la rédemption, la délivrance. Premier temps fort, Dieu crée le monde. Deuxième temps fort, Dieu se révèle au monde. Troisième temps fort, Dieu délivre le monde. Ces trois sommets, c'est un triangle à nouveau équilatéral, dont le sommet est inversé. Si vous superposez ces deux triangles, et que vous les agencez suivant la forme célèbre du Maguen David, vous obtenez donc une nouvelle figure géométrique, qui est en fait une figure avec six points. Et nos maîtres disent que les six points en question constituent l'ouvrage de l'homme dans le monde. Les coordonnées d'un homme qui agit dans le monde, qu'est-ce que la vie? C'est cette relation donc entre Dieu, moi et le monde, et c'est ma démarche entre la création, la révélation et la délivrance, la rédemption. Donc le Magen David a très vite été d'une certaine façon le symbole de toutes ces données fondamentales, et voilà pourquoi il ne faut pas le récuser, mais il ne faut pas s'en contenter. Et ce Magen David, pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce qu'il y a six sommets que nos sages ont très rapidement assimilés, expliqués, comme étant les six jours de l'action de l'homme. Qu'est-ce qu'une semaine juive? C'est une semaine de six jours d'activité, clôturée, parachevée, couronnée par un Shabbat. Où est le Shabbat? Il est le centre du cercle. Car bien évidemment, les six points en question sont tous inscrits sur un même cercle. Et si vous tracez donc un cercle, vous obtenez cette circonférence qui constitue la vie de l'homme, et vous avez au cœur de cette vie le Shabbat qui, centre implicite de notre vie, est la tension permanente qui tient en état à la fois le monde, l'espace et l'histoire. Et voilà pourquoi le Shabbat est pour nous le cœur de toute notre démarche. Voilà pourquoi, je le redis à chaque coup, je ne me répète pas, j'explique. Voilà pourquoi comprendre le Shabbat, c'est comprendre fondamentalement l'identité de notre peuple et notre démarche historique. Et voilà pourquoi les sages d'Israël ont dit que lorsque le peuple juif aura compris le Shabbat, la délivrance est au bout du chemin, tout de suite. Sitôt, dit le Talmud, le Shabbat observé, eh bien le Messie est là. Simplement, vous voyez combien grande est l'entreprise, puisque nous sommes encore, apparemment, très loin. La raison pour laquelle nous faisons ce cours, c'est parce que nous sommes pressés et que nous voulons convaincre le maximum de gens de l'urgence du Shabbat. C'est la raison également pour laquelle nous avons déplacé notre cours du jeudi au lundi, pour vous donner le temps de le préparer et avoir la possibilité, en 5 jours, même pas, 4, la possibilité de vous remettre en question, et ceux qui croient le connaître ce Shabbat, de le faire encore davantage. Mais, voilà que ce soir, je voudrais ajouter un deuxième élément de réflexion. C'est que ce Shabbat, il y a dans la tradition une idée qui est exprimée, qui me paraît très forte, et qui me paraît nécessaire à l'équilibre même de notre temps à nous. Il est dit que au moment où le Shabbat est donné, dans la création du monde, le texte dit « Vaychulu ha-shamayim » et les cieux et la terre furent terminés. « Vaychal Elohim bayom ha-shivi'i » voilà que Dieu dit et il a terminé, Dieu, toute l'œuvre qu'il avait commencée. Alors on se demande, est-ce que Dieu a vraiment fini? Est-ce que Dieu a fini? Problème, est-ce qu'on a un jour fini? Alors je crois que pour les hommes, le problème de savoir si on a fini, moi je le formulerai de la façon suivante. C'est qu'en fait, on n'a jamais fini, et comme on n'a jamais fini, on a dans la vie un terrible sentiment d'insatisfaction. Qu'est-ce que c'est que la satisfaction? C'est le sentiment d'un geste accompli. Qu'est-ce que c'est que la frustration? C'est le sentiment de n'avoir pas fait ce que l'on avait à faire. Et c'est terrible, comme dans la vie, on se sent frustré, insatisfait, parce qu'on n'a pas fait ce que l'on devait faire. Alors vous rendez compte un petit peu, dans cette dimension, combien vital est le monde du Shabbat. Parce qu'imaginons donc quelqu'un dans la tension, dans la difficulté d'un vendredi, avec un travail considérable, bien évidemment, inachevé. Qui peut dire ici qu'il a fini? Personne. Et voilà que d'un seul coup, Shabbat tombe comme un couperet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nos maîtres disent, pourquoi Dieu a-t-il employé cette phrase dans la Torah, et l'Éternel a achevé tout ce qu'il avait fait, pour nous dire, il a agi comme si il avait terminé. Et je crois que Dieu a ici donné à l'homme la plus grande de toutes les leçons, à savoir que rien n'est jamais fini, mais que tout peut attendre. Et en fait, quand on comprend cette leçon, moi je fais le cours d'abord pour moi, eh bien, on a peut-être la possibilité d'échapper au stress permanent de l'existence. Celui dans lequel, plus on a de responsabilités, plus c'est le cas, on a le sentiment d'avoir jamais fini. Alors le Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est pas un moment où on s'arrête de travailler. C'est un moment où on doit se persuader de ce que l'œuvre doit être interrompue. Et qu'au moment où elle est considérée comme achevée. Et qu'au moment où elle est considérée comme achevée, l'homme éprouve ce sentiment bienfaisant de plénitude qui suit précisément la satisfaction d'une œuvre terminée. Ça veut dire que si dans nos vies, nous n'avons pas à un moment donné le sentiment d'avoir fini quelque chose, je crois qu'on serait tous incapables de vivre. Et que finalement le Shabbat se présente comme la thérapeutique de l'insatisfaction. Comment guérir le sentiment d'insatisfaction dans le monde? En observant le Shabbat. De la même façon que je crois, après cette première thérapeutique, vous savez que le Shabbat, à mon avis, sera bientôt remboursé par la Sécurité sociale, parce que je pense que le nombre de médicaments qu'on devrait économiser par une bonne pratique du Shabbat est absolument incommensurable. Et que déjà, si on a pris la leçon, que puisque Dieu a donné l'exemple lui-même, que lui pouvait s'arrêter, que lui devait s'arrêter, alors que rien ne commandait de le faire, il pouvait continuer à créer. Et on dit que le nom de Dieu le plus puissant, celui qui exprime la puissance de Dieu, c'est celui d'ailleurs que l'on met à l'entrée des portes des maisons avec un shin sur la mezouzot. Shin, c'est la première lettre de Shaddai, qui est le nom de Dieu qui exprime, merci beaucoup, la puissance. Et dont on dit de lui, pourquoi est-ce que ce Dieu s'appelle comme cela? C'est parce que Amar le Olamo Dai. Il a dit au monde, ça suffit. Lorsque nous explique la tradition, lorsque Dieu a commencé à créer le monde s'est développé, se développait, se développait, d'autres créations devenaient nécessaires, 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 et Dieu a eu une force incroyable, il a dit Dai. Dai, en hébreu, c'est le symbole de la force. Les mêmes lettres à l'envers, ça fait Yad, la main. C'est-à-dire que dans ma main, je tiens mon destin. J'ai la capacité d'arrêter. Qu'est-ce que c'est que la main? C'est l'action. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est le monde de l'inaction. Je retiens ma main. Et je dis, j'écris plus, je travaille plus, je cesse de créer. Or, effectivement, dans la vie, je vous souhaite deux choses. C'est d'une part de ne jamais manquer de travail, et d'autre part, de ne jamais avoir la tentation de le continuer. C'est-à-dire d'être assez fort pour vous arrêter de travailler. Ce que je souhaite aux Juifs, c'est des magasins pleins le vendredi après-midi et des videurs pour chasser les clients à l'heure de l'entrée du Shabbat. C'est des avocats qui ont une, ou des médecins qui ont une queue qui attend dehors devant leur cabinet et qui disent, excusez-moi, c'est Shabbat. C'est pas des gens qui cherchent du boulot, qui s'inscrivent sur les annonces de demandeurs d'emploi. La Torah n'a jamais imaginé que le peuple juif était un peuple d'oisif ou d'inactif. Au contraire, nos maîtres ont considéré toujours que la pire des malédictions, c'était l'oisiveté. Et quand on décrit le personnage qui s'appelle Ésaü, et qu'on peut en un mot présenter comme l'anti-judaïsme, on dit que celui qui est le symbole même de l'opposition à la Torah, c'est Ésaü. Qui est Ésaü? Rachid dit de lui qu'il était Yoshev ou Batel. Il ne faisait rien. Il ne faisait rien. Il organisait des courses de lévriers, des chasses à la cour c'est rue de Zéro, bien sûr, et etc. Il n'avait rien à faire. Imaginons un fils de milliardaire qui fait constamment des courses de stock-car avec des Rolls-Royce sur des circuits privés. Oui, un peu. Voilà Ésaü aujourd'hui. Il n'y a pas quoi faire. Alors ça, c'est la ressource de tous les mots MAUX. La Torah dit, soyez actifs et sachez vous arrêter. Voilà le monde du Shabbat. C'est là qu'on découvre le sens du Shabbat. Alors maintenant, problème, s'il y a parmi nous, et ça doit arriver, puisqu'il y a plusieurs millions de chômeurs en France, des gens au chômage. Chômage ne veut pas dire inactivité. Et moi, je suis persuadé, et je le dis comme une profession de foi, que celui qui veut travailler, peut travailler. Ça ne veut pas dire qu'il trouve nécessairement un emploi. Ça veut dire qu'être actif, c'est le propre de tout homme. Et ce dont vous devez vous méfier, ce n'est pas du non-emploi, c'est de l'inactivité, ce qui est très différent. Et la Torah dit, cessez d'être actif au jour du Shabbat. Pourquoi ? Parce que ce qu'il nous faut, c'est gagner cette satisfaction de la vie, et ce qu'il nous faut, c'est autre chose. Je pense que les hommes, et c'est le deuxième médicament dont le nom est Shabbat, les gens sont terriblement angoissés. Quand on essaie de réaliser ce qu'est l'angoisse, elle peut s'expliquer de toutes sortes de façons. Pourquoi les gens ont peur ? Ils ont peur du futur, et ils ne savent pas ce que c'est. La mort, par définition, c'est le futur inconnu. Demain, par définition, c'est le futur qu'on veut connaître, mais qu'on a peur de connaître. C'est un petit peu comme si on refusait de vivre. Avoir peur, c'est avoir envie de ne pas vivre, et pourtant, ne pas renoncer à vivre. Renoncer à vivre, c'est Barminan, le suicide. Vouloir vivre, c'est avoir peur. Alors, est-ce que l'on est condamné à choisir entre le suicide et la peur ? Alors, la Torah dit pas du tout. On peut vivre sans avoir peur. Comment ? Grâce au Shabbat. Pourquoi ? Pourquoi c'est le Shabbat qui décomplexe l'homme ? Pourquoi c'est lui, dans la mesure où on l'a compris, qui redonne la possibilité à l'homme d'être ? C'est que d'un seul coup, le Shabbat c'est une enclave dans le temps qui est en dehors du temps. D'un seul coup, on sort de ses problèmes. Et c'est là la notion la plus profonde du Shabbat. Par Shabbat, on n'entend pas, et je le répéterai jamais assez, inactivité, mais on entend capacité de sortir de l'action. Ça veut dire d'être capable de nous extraire du monde qui nous angoisse et retrouver la sérénité intérieure. Comment est-ce qu'on vit cela ? Et c'est là où toujours, à un moment donné, dans toutes les thèses philosophiques que vous pourrez trouver ailleurs, les idées que je vous expose, vous pourrez les trouver peut-être même chez des philosophes, je n'ai pas eu le temps de les lire. Mais une chose, vous ne trouverez jamais chez eux, c'est des solutions. Or, la Torah n'est pas un énoncé de problème, elle est une proposition de solution. Et elle dit, comment est-ce qu'on arrive à cela ? Comment est-ce qu'on combat sa peur ? Comment est-ce qu'on domine son angoisse ? Quand on a la conviction que tout est toujours possible. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est toujours possible ? Ça veut dire que dans la vie, en fin de compte, la désespérance vient de ce que je réalise à un moment donné que je ne peux plus rien faire. Que je baisse les bras devant des réalités qui m'étouffent. Je ne peux plus. J'arrive plus à décider ce que je veux décider. Et je donne toujours les exemples les plus courants de celui qui décide de ne pas fumer et qui continue à fumer. Il est désespéré. C'est un petit exemple. Ça peut être plus grave. Ça peut être par exemple le régime alimentaire. Un régime pour maigrir, c'est pas méchant. Mais un régime médical, pour des raisons de santé, c'est plus grave. Et pourtant, des hommes, à moins de se trouver dans une situation d'angoisse immédiate, renoncent à ce régime. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acquis le réflexe que la vie était plus forte qu'eux, qu'ils n'arrivaient pas à dominer leur propre vie, qu'ils ne réussissaient pas à sortir d'un cercle infernal. Or, un vendredi, c'est un jour dans lequel, selon la tradition, souffle un vent de Teshuvah dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que souffle un vent de Teshuvah dans le monde ? C'est un monde dans lequel Dieu dit à l'homme, tu sais, tout est encore possible. Tu crois que tu es un perdu, un paumé. Alors moi je viens et je te dis, c'est pas vrai, c'est pas perdu, c'est pas paumé. Tout est encore possible. Tu as la capacité de te ressaisir Et le Shabbat vient et te dit, ressaisis-toi. Et la capacité de commencer. Et voilà pourquoi on a dit de façon tout à fait allusive qu'à chaque Shabbat, Dieu renouvelle le contrat de la création. Le contrat de la création, et c'est sous cette forme que Dieu a dit à l'homme, tu sais, quand tu parleras du Shabbat, dit Dieu à Moïse, prends les Juifs sur le sceau du secret, sur un ton confidentiel, et dis-leur, presque en leur soufflant à l'oreille, venez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous annoncer que j'ai un cadeau. J'ai un cadeau à vous faire. Et voilà ce cadeau, c'est Shabbat. Alors, exprimer cela sous cette forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grandeur du Shabbat ne peut pas se découvrir autrement que dans l'intimité du rapport. Ça veut dire que tant que vous ne vous sentez pas, vous, en tant que personne, concerné par l'interpellation du Shabbat, vous n'y êtes pas entré. Ça veut dire que tant que vous ne vivez pas votre Shabbat, vous, que ce n'est pas pour vous un concept, que vous n'en avez pas une appréhension intellectuelle seulement, que vous n'en avez pas simplement que le fardeau de l'institution, que le déroulement mythique des rites, sans vous être jamais interpellé par ce qu'il est porteur, en quoi il est porteur ce rite, et que si vous réussissez à conjuguer l'intervention du rite dans votre vie et la signification dont il est porteur, alors vous allez un jour nécessairement trouver votre Shabbat. Vous allez un jour tomber dans votre Shabbat. Et cette découverte-là, parce que c'en est une, ne peut se faire que dans l'intimité d'une conscience. La seule chose que moi, je vous demande de faire en attendant, c'est de juste savoir que vous ne devez pas négocier votre Shabbat au rabais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait idiot d'accepter, par exemple, admettons que vous teniez ce langage, et que vous disiez à vous-même, écoutez, qu'est-ce que ça va me coûter un Shabbat? Faites par exemple une division. Vous dites qu'il y a 4 Shabbats environ par mois, et on me propose un emploi à 8000 francs. Ça fait 2000 francs pièce. C'est dommage. C'est dommage de vendre un Shabbat 2000 francs. Le Shabbat a une valeur colossale. Alors en attendant, qu'est-ce que vous faites? Comprenez pas la valeur du Shabbat. Ça vous échappe encore. Ça viendra peut-être. Vous allez vous rencontrer un jour avec le Shabbat. En attendant, c'est l'objet de ce cours. Essayez de vous dire, c'est quelque chose de valeur, je ne vais pas le vendre. Et rappelez-vous l'histoire que j'avais racontée dans un chiour il y a quelque temps, qui est authentique, du rabbi Hanoch Alexander, qui était un grand rabbi de la lignée chassidique du siècle dernier, et qui un jour était seul à la maison lorsque un mendiant s'est présenté. C'est sa femme qui d'habitude les recevait, et il ne savait pas quoi lui donner à ce brave homme qui lui demandait quelque chose. Alors un petit peu perdu, dépassé par les événements, il va dans la chambre à coucher, et il trouve sur la table de nuit de sa femme un bijou. Il le prend, et il le donne au mendiant. Le mendiant, à peine descendu, la femme du rabbin arrive, elle était allée faire des courses. Alors le rabbin lui dit, ah, justement, pendant ton absence, il y a un mendiant qui est venu, et puis je ne savais pas où tu mettais l'argent, ou quoi lui donner, alors je lui ai donné la bague qui était sur ta table de nuit. Ah, la malheureuse se dit, quoi, tu as fait ça? C'est une bague que ma mère m'a offerte. Le rabbin n'a pas dit justement, il a dit, et elle continue, elle dit, mais elle vaut des millions. Comment tu as pu donner ça à un mendiant? Alors le rabbin prend un air catastrophé, puis descend en courant à la recherche du mendiant. Il aperçoit devant, il court derrière, le mendiant voit le rabbin, il se met à courir. Le rabbin rattrape le mendiant, et il lui dit, dis-moi, la bague que je t'ai donnée tout à l'heure, tu l'as toujours? L'autre tremblant lui dit, oui, je l'ai. Alors il dit, fais attention, ne la vends pas à n'importe qui, elle vaut des millions. Et il lui a laissé la bague. Alors, c'est un peu ce que je vous demande avec le Shabbat. Si j'arrive par hasard à vous rattraper dans la rue, et que je vous dise, attention, vous avez un diamant. Ne le vendez pas. Vous ne connaissez pas sa valeur, vous ne voulez pas le négocier, mais ne le vendez pas à n'importe qui. Alors en attendant de comprendre le Shabbat, essayez de le pratiquer, c'est le meilleur moyen de le conserver. Alors justement, on va déterminer en quelques mots sur la pratique du Shabbat avant de conclure cette première partie. On a vu la semaine dernière comment il fallait se préparer au Shabbat. Maintenant, on aborde aujourd'hui, pendant quelques minutes, les choses qu'il ne faut pas faire le vendredi. On a vu la semaine dernière les choses qu'il fallait faire le vendredi. Maintenant, on va voir, pendant quelques instants, ce qu'il convient de ne pas faire le vendredi. On nous dit que tout travail qui est entrepris dans un but lucratif, faites bien attention, c'est-à-dire que l'on fait pour gagner de l'argent, un vendredi après-midi juste avant l'entrée du Shabbat, ce travail-là ne connaîtra jamais de bénédiction. On aura, disent nos maîtres, parfois l'impression de gagner de l'argent, en fait, on le reperdra autrement. Donc, évitons de travailler non pas seulement le Shabbat, mais le vendredi, juste avant l'entrée du Shabbat. Il s'agit de l'heure écart, très précisément, une heure écart, avant l'entrée du Shabbat. Et il est vrai qu'aujourd'hui, comme de tout temps, celui qui se mettrait à vouloir accueillir le Shabbat à la dernière minute se trouverait dans l'impossibilité de le faire convenablement. Il y a toujours un imprévu dans le travail, il y a toujours un bouchon sur le périphérique, il y a toujours des problèmes de déplacement, surtout quand il y a des chefs d'État qui se baladent à Paris. On a toujours, hélas, des choses que l'on n'a pas prévues. Alors nos sages disent, n'allez pas jusqu'au bout. Essayez de combiner votre vendredi pour vous arranger à ne pas travailler. C'est simplement un conseil, mesdames et messieurs, comprenez bien. Il n'est pas interdit de travailler le vendredi après-midi. Mais à des gens qui peuvent entendre, on leur dit tout ce qu'on doit leur dire. Vous considérant comme tel, je vous dis le vendredi après-midi, méfiez-vous des surprises de dernière heure. Ne vous dites pas, j'ai encore le temps, vous allez être piégés comme des tas de gens naïfs qui pensaient encore avoir le temps. Or, comme le temps, de toute façon, ne nous appartient pas, surtout celui du vendredi après-midi, il ne faut donc pas en disposer. Par contre, dans la mesure où on a dû terminer une affaire, dans la mesure où on est sur un chantier, c'est-à-dire qu'on est en train de clôturer quelque chose, on peut aller jusqu'à une certaine limite. Quelle est cette limite? C'est l'entrée du Shabbat, moins le temps qu'il nous faut pour nous y préparer. C'est-à-dire que si, par exemple, le vendredi, le Shabbat rentre à 17h, et qu'il vous faut, pour vous préparer au Shabbat, le temps de prendre un bain, de vous laver les cheveux, de vous faire un brushing, de vous nettoyer tout ce que vous voudrez, et que vous habillez, vous maquillez, etc., il vous faut, par exemple, 2h45, prévoyez 2h45 avant 17h. Comprenez, ne commencez pas à vous dire à 5h moins 5, tiens, c'est Shabbat dans 5 minutes. Voilà l'état d'esprit. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le temps de préparation du Shabbat. Alors, pour préparer également son Shabbat de façon claire, Rahamim disent que c'est important de penser à différentes choses. Alors, dans les foyers bien organisés aujourd'hui, on peut mettre par exemple son Shabbat sur ordinateur. C'est-à-dire par exemple, on est en train de préparer de toute façon on vous prépare une chose extra pour 80 ans, vous allez voir. 36-15 code Torah, clac, vous allez voir, choisissez, vous allez voir Shabbat, hop, apparaître, les dynimes, etc. Mais l'ordinateur ne fera jamais Shabbat à votre place, mettons-nous bien d'accord. Mais vous donnera quelques indications sur la façon de préparer. Alors la façon de préparer le Shabbat, donc pensez à différentes choses comme une minuterie, des interrupteurs, l'allumage des nérotes, la lumière du frigidaire à retirer, toutes sortes de petites choses, la clé, comment on va faire, enfin des tas de petites trucs. En fin de compte, ça paraît un monde le Shabbat. C'est un monde pour les gens impréparés. Le Shabbat, c'est le monde de la préparation. Ça veut dire que les actes qui ont de la valeur sont ceux que l'on prépare. Moi, j'ai fait pas mal de mariages, j'espère en faire beaucoup encore dans ma vie, si Dieu veut. Enfin, j'en ai célébré un certain nombre. Puis j'ai vu qu'il y a certains couples qui préparent les mariages, mais alors, fantastique. Je suis déjà invité à des mariages fin 91. C'est vrai. Mais ils savent déjà la couleur de la robe. D'accord? Ils savent déjà le menu, Ils sont en train de préparer le détail, mais ils n'ont pas tort. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais pour eux, c'est important, se marier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils le préparent longtemps en avance. On fait une checklist, et puis on note qui est invité, qui ne surtout pas invité, etc. On fait une liste pour ne rien oublier. Et la même chose pour le Shabbat. Je veux dire, Shabbat se prépare. Et il le fait simplement, la préparation, c'est pas seulement la cuisine. C'est tout un certain nombre de choses auxquelles il faut penser. Et il n'est pas du tout idiot d'avoir un pense-bête dans sa cuisine ou ailleurs, avec un listing pour se dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, jusqu'au moment où ça fait partie de vous. J'étais toujours étonné, encore aujourd'hui, lorsque j'assiste à l'atterrissage d'un avion, au décollage, je vais parfois dans la cabine de pilotage, j'en demande autorisation, et je suis impressionné par la checklist des pilotes. Je me dis, mais enfin, ils ne peuvent pas la prendre par cœur. Or, il est interdit par le règlement de navigation d'apprendre la checklist par cœur. Et c'est la même chose pour le Shabbat. On ne peut pas dire « je connais par cœur le Shabbat ». Ça veut dire que quand, pourquoi un pilote le fait? Parce qu'il sait que d'un oubli, un oubli peut être fatal. C'est la même chose. Le Shabbat, un oubli peut être fatal. Évidemment, on ne meurt pas sur le coup comme ça, ce serait trop beau. Ce serait trop beau, imaginez un peu que le ciel tombe sur la tête de tous ceux qui profanent le Shabbat. Ce serait trop beau, trop simple. C'est pas comme ça. Mais on engrange des déficits qui seront difficilement récupérables. Alors voilà pourquoi l'activité du vendredi doit prévoir cette préparation. Et que si par contre cette préparation se prolonge jusqu'à la dernière minute, il est tout à fait loisible de le faire. On peut effectivement prévoir d'aller chez le coiffeur ou le manicure jusqu'à la presque la dernière minute, le temps qu'il faut une nouvelle fois pour arriver chez soi. Et dans la mesure où on ne peut pas terminer un travail Shabbat, on peut le laisser se terminer tout seul. Je vais donner un exemple. L'exemple dont parle le Talmud, c'était, puisqu'à l'époque il n'y avait pas la programmation, c'était les pièges pour les animaux. Par exemple, quand on se nourrissait, ou quand on voulait attraper par exemple des poissons, on tendait des filets dans la mer. Alors le vendredi, un pêcheur juif, pas un juif pêcheur, il peut tendre des filets le vendredi. Et puis pendant le Shabbat, les poissons vont se prendre dedans. Il est permis de le faire. Alors, de là, par exemple, on a appris qu'aujourd'hui, quand vous avez une machine à laver, et que vous programmez, par exemple, un lavage numéro 4, par exemple, lavage courant, hein, d'accord, sur le machin, et que vous enfoncez le bouton avant Shabbat, et que ça continue à se faire, bien que certains de nos maîtres ne recommandent de ne pas le faire, ce sont surtout d'usage ashkénaze. Le Roma demande aux ashkénazim de ne pas le faire, a priori, sauf nécessité, mais autrement, pour les Sfaradim, Maran, l'auteur du Shulchan Aruch, permet, par exemple, de faire comme cela, de laisser quelque chose se continuer tout seul Shabbat, dès lors qu'il n'y a plus intervention de l'homme. Mais, dans la mesure où il y a intervention de l'homme et que cet homme n'est pas juif, eh bien, il y a deux différences. Si ce que fait, par exemple, cet ouvrier, par exemple, je donne des vêtements, ma voiture à réparer, à un garagiste ou à une blanchisserie, il ne faut pas se tromper d'ailleurs, pas donner la voiture à la blanchisserie, le vendredi avant Shabbat. Alors, est-ce que je peux? Je vais me dire peut-être qu'il va travailler Shabbat. Alors, on peut, dans la mesure où la personne n'est pas payée à la journée et qu'elle ne fait pas ce travail chez moi. Donc, lorsque je vais dans les shops d'un ouvrier, d'un artisan, et que je lui donne quelque chose à faire, et qu'il le fait pour le prix du travail, c'est-à-dire on sait que par exemple le fait de donner un pantalon ou une cravate à dégraisser c'est tant de francs, eh bien l'homme organise son temps, son travail comme il veut. Je ne rentre pas dans les détails pour savoir s'il va le faire maintenant, demain, après Shabbat, etc. La seule chose qui est interdite, c'est d'aller par exemple voir un teinturier, Shabbat rentre à 5 heures, d'aller le voir à 16h59, et lui dire demain soir à 18h02, quand il est le Shabbat, je viens le chercher. Ça, on ne peut pas. Parce que, obligatoirement, vous ne lui laissez aucune autre possibilité que de le faire pendant Shabbat. Mais si vous le lui donnez avant, et que vous le laissez faire, il n'y a aucune interdiction à cela. On n'a pas besoin d'imposer au monde le respect du Shabbat. Certains diront, heureusement. Et effectivement, dans ce cadre-là, par exemple, si vous partez l'année prochaine en vacances dans une croisière cachère, sur un bateau. Et que le capitaine, la compagnie, les marins ne sont pas juifs. Parce que s'ils sont juifs, ça pose un problème. Ont-ils le droit, eux, de travailler pour nous? Réponse, non, a priori, sauf cas de danger. On ne peut accepter de voir un juif travailler pour un autre que s'il y a danger. C'est la raison pour laquelle on considère en Israël, c'est une grande polémique, de savoir si par exemple les centrales électriques ont le droit de travailler Shabbat. C'est un problème. Vous savez bien que les centrales électriques sont en surveillance permanente. Est-ce qu'on a le droit à Shabbat, par exemple, non pas d'allumer l'électricité en Israël, bien sûr que non, mais de profiter de cette électricité, sachant que dans la centrale du coin, il y a des gens qui sont en train d'opérer une surveillance pendant le Shabbat. Alors, ceux qui permettent de le faire, certains l'interdisent. Et certains, effectivement, s'abstiennent d'électricité Shabbat dans des endroits très pieux et utilisent des générateurs ou d'autres systèmes. Mais ceux qui permettent de le faire se fondent sur le fait que c'est seulement pour des urgences que cela est toléré. Israël est un État en guerre. L'urgence est hélas au quotidien. Et le fait de laisser donc des centrales fonctionner fait partie de la vie, j'allais dire de ce qui est vital pour le pays. Et voilà pourquoi celui-ci sera autorisé. Vous avez compris la logique. Alors, dans ce même cadre, le fait, par exemple, de partir en croisière, dans la mesure où vous avez embarqué avant Shabbat, et que pendant Shabbat, vous continuez, sous un ciel bleu, dans la mer Noire, à vous promener, donc à laisser le bateau continuer. Vous avez le droit. Vous ne transgressez rien, vous avez pris, en quelque sorte, domicile, élu domicile, avant l'entrée du Shabbat. Le Shabbat peut donc être le monde qui continue. Vous n'avez pas besoin d'interdire et de dire au capitaine, déposez l'ancre. Surtout au milieu de la mer Noire, il y a 1200 mètres à peu près, c'est difficile. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il y a des lois relatives donc à nos rapports avec le monde non-juif dans la pratique du Shabbat qui seront non pas des tolérances, mais l'acceptation par le peuple juif, lui seul, de l'observance du Shabbat sans l'imposer au monde. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, demander à un non-juif, c'est de faire des travaux que nous n'avons pas le droit de faire, nous, quand il les fait de la façon interdite chez nous. C'est cela que nos Chachamim demandent de ne pas faire. Mais on peut, par exemple, avoir une femme de ménage à la maison, dans la mesure où elle fait des travaux qui nous allègent à nous. Par exemple, Shabbat, on a le droit de laver un peu de vaisselle, ou bien de faire les lits, ou bien de faire un peu de ménage dans la maison pour qu'elle reste agréable. Eh bien, on peut se faire aider par une femme de ménage non juive pendant le Shabbat pour cette raison-là, dans la mesure où elle fait des travaux chez nous, qui sont des travaux que nous aurions le droit de faire. Par contre, elle n'a pas le droit de faire, par exemple, une lessive à la maison. Elle ne peut pas faire des travaux que nous n'avons pas le droit de faire chez nous. Voilà, si vous voulez, les principes généraux, évidemment, sans entrer dans le détail, qui gèrent nos rapports avec le monde non juif concernant le Shabbat.